Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et nous reviendrons dans ce journal sur l'annonce des médecins en charge de Vincent Lambert. Il prévoit l'arrêt des traitements à partir de ce lundi, mais les parents annoncent de nouveaux recours. Que peuvent-ils faire? Que dit la loi? Analyse de ce débat sur la fin de vie dans un instant.
Vous entendrez aussi les raisons de la colère des moniteurs d'auto-école. Avec les chauffeurs de taxi et les ambulanciers, ils protestent aujourd'hui contre la loi mobilité. Les opérations escargots ont débuté ce matin.
Dernière semaine de campagne avant les élections européennes. Les têtes de liste multiplient les débats, les réunions publiques et ils envahissent les réseaux sociaux. Nous ferons le point sur la campagne en France dans ce journal.
Et puis nous irons également en Autriche où le vice-chancelier d'extrême droite a démissionné ce week-end. La coalition au pouvoir s'effondre.
Et puis pourquoi le président turc Erdogan veut-il implanter des écoles turques en France? Notre correspondante à Istanbul nous éclairera alors qu'une délégation du pays doit visiter aujourd'hui et demain des établissements français. Les traitements pourraient s'arrêter cette semaine, plus de 10 ans après l'accident de la route de Vincent Lambert. Tétraplégique, il est depuis dans un état végétatif et ses proches se déchirent autour de lui. Après de nombreux recours, l'arrêt des traitements a été validé par le Conseil d'État fin avril et programmé donc à partir d'aujourd'hui. Les parents du patient, par la voix de leur avocat, évoquent toutefois de nouveaux recours entre le droit à la fin de vie et l'acharnement thérapeutique. Bonjour Antoine Marette.
Bonjour.
Peuvent être ces nouveaux recours évoqués par l'avocat des parents de Vincent Lambert?
Eh bien, en réalité, les parents de Vincent Lambert sont sans doute arrivés au bout du processus judiciaire. La décision médicale d'arrêt des soins a été validée par le Conseil d'État et la Cour européenne des droits de l'homme. On semble donc arriver au terme de ce parcours judiciaire qui aura duré tout de même 6 ans. La seule solution pour eux, ce serait un recours avec un nouvel objet, ne plus contester la décision médicale elle-même qui a été définitivement validée. Quant à la demande du comité de l'ONU des droits des personnes handicapées de poursuivre les soins en faveur de Vincent Lambert, c'est un avis qui n'est pas contraignant nationalement. Les parents en sont donc à implorer Emmanuel Macron de maintenir leur fils en vie, leurs avocats évoquant un crime d'État, mais on imagine mal le chef de l'État contester une décision du Conseil d'État et de la Cour européenne des droits de l'homme. Les avocats des parents réclament également la radiation et des poursuites à l'encontre du médecin qui dirige le service des soins palliatifs où se trouve Vincent Lambert. C'est lui qui a annoncé l'arrêt des traitements cette semaine.
Alors les parents de Vincent Lambert, Antoine, sont soutenus par la Conférence des évêques de France, soutenus également par la tête de liste du Parti Les Républicains aux Européennes, François-Xavier Bellamy, selon qui le président Emmanuel Macron devrait intervenir dans cette affaire. Preuve que le débat sur la fin de vie revient sur la scène politique. Antoine, la loi actuelle est-elle trop floue?
Eh bien écoutez, la loi actuelle, Cléies Leonetti, ne répond pas à tous les cas, mais elle répond à celui de Vincent Lambert. En cas d'obstination déraisonnable, il est possible d'arrêter les soins, même si cela conduit au décès du patient. Et cet arrêt des soins peut être accompagné d'une sédation profonde qui permet d'éviter toute souffrance. Le cas Vincent Lambert est tout de même très particulier. Cet homme n'a pas laissé de directive anticipée écrite avant son accident et sa famille se déchire, d'où les 6 ans de procédure. Ce débat autour de la fin de vie revient sur la scène politique car c'est un débat qui intéresse les Français. Une majorité d'entre eux est favorable à la légalisation de l'euthanasie active, comme cela existe par exemple en Belgique. Et parmi ceux qui s'y opposent, il y a l'Église catholique, avec laquelle François-Xavier Bellamy ne cache pas sa proximité. C'est donc un des seuls hommes politiques qui soutient ouvertement les parents de Vincent Lambert.
Merci beaucoup Antoine Marette pour ces précisions ce matin. Il se mobilise contre la loi orientation des mobilités et contre la réforme du permis de conduire. 4 syndicats de taxis, d'auto-écoles et une association d'ambulanciers appellent aujourd'hui à manifester à Toulouse, Dijon, Strasbourg, à Paris également, où 9 cortèges convergent ce matin vers le centre de la ville. Tous protestent contre la souplesse accordée aux VTC, les véhicules avec chauffeur, une souplesse accordée dans la loi mobilité. Ces chauffeurs pourraient notamment utiliser les voies réservées aux bus et aux taxis. Ils protestent également contre la baisse du prix du permis de conduire au détriment de la formation. Patrice Besson préside le CNPA Éducation Routière et il s'explique ce matin.
Si on ne veut pas avoir encore des gilets jaunes dans quelques mois, il faut faire attention à ce qui a été dit. Édouard Philippe, dans la réforme, a mis en avant le fait de mettre des cours collectifs sur simulateur pour baisser les coûts. Mais en même temps, certains députés de la majorité veulent retirer un amendement qui a été mis par le Sénat dans la loi des d'orientation des mobilités pour la portée départementale de l'agrément. Le problème, c'est que si, en fin de compte, on ne garde un local d'enseignement pour mettre des simulateurs, parce que le simulateur, il faut un endroit pour le mettre, et pour faire des cours collectifs afin de baisser, c'est louable, le coût du permis uniquement pour les citadins, et que si la France périphérique n'a plus de locaux, mais à la place, une voiture pour un formateur avec des prix élevés, c'est pas la baisse de 30% qu'il y aura dans la France périphérique. Ça va être une augmentation de 30% du coût du permis.
Patrice Besson, président du CNPA Éducation Routière. Quand La République En Marche attaque le Rassemblement National sur le thème des influences étrangères, ministres et responsables de la majorité ont multiplié hier les critiques contre le RN, RN qu'ils accusent d'être soumis à Donald Trump, Vladimir Poutine et à l'italien Matteo Salvini. Signe par ailleurs de la tension qui monte, la majorité a demandé aux chaînes de télévision qui organisent les derniers débats cette semaine de mettre en place un dispositif anti-infox en direct pendant les débats. La majorité mobilisée, donc à 6 jours du scrutin, mobilisée surtout sur les réseaux sociaux. Hier, la liste Renaissance a organisé un débat de 12 heures via l'outil Facebook Live. 40 intervenants, dont 16 ministres, se sont succédés face caméra pour évoquer les problématiques soulevées par les réseaux sociaux. Un exercice pratique pour assurer leur communication à moindre coût. C'est l'analyse de Thierry Vedel, il est chercheur au CNRS, au Centre de Recherche Politique de Sciences Po également.
C'est vrai que les réseaux sociaux coûtent pas cher à utiliser et que potentiellement, on peut se dire, finalement, le coût aux 1000 personnes touchées, il est très très faible comparativement, par exemple, aux affiches, aux tracts. Là, il y a des coûts réels, il faut imprimer du papier. Un autre avantage aussi, c'est qu'on est sur l'Internet et l'Internet échappe à la réglementation sur le pluralisme politique dans les médias. Ce qui veut dire qu'on peut très bien avoir une émission qui dure des heures et des heures sans qu'on soit soumis à une quelconque réglementation. Et encore un autre avantage aussi de l'utilisation de Facebook Live ou des réseaux sociaux ou de l'Internet de façon générale, c'est qu'on peut avoir la communication directe. Par là, j'entends une communication sans intermédiaire, comme c'est le cas lorsque, par exemple, les candidats, les responsables politiques interviennent sur les médias. Là, ils sont soumis aux questions des journalistes, ils doivent répondre, ils ne peuvent pas forcément imposer leur thématique, leur problématique.
Des propos recueillis pour France Culture par Steven Goyer. On l'a compris, tout est donc bon pour se faire entendre. À 6 jours des élections européennes, la liste de la majorité est toujours derrière le Rassemblement National dans les sondages. Bonjour Rosalie Lafarge.
Bonjour.
Le RN légèrement en tête en ce moment, mais la course à la première place est toujours d'actualité.
Oui, plus que jamais. L'élection a beau être européenne, elle se cristallise depuis le début autour du duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais depuis l'irruption du président dans la campagne, les scores de la majorité se tassent dans les sondages et le RN, déjà en tête il y a 5 ans, passe devant avec parfois 3 points d'avance. Le Rassemblement National a fait de ce scrutin un référendum anti-Emmanuel Macron et même si le président ne risque pas de se plier aux exigences de la patronne du RN en cas de défaite, il le sait, il joue gros dans cette élection. Il n'hésite d'ailleurs pas à se placer en première ligne, à se poser en rempart à l'extrême droite, comme il l'a fait à Biarritz vendredi. Il aurait aussi fait passer quelques consignes strictes aux ministres et représentants de la majorité. Ils doivent être sur le pont, tous, charge à eux, derrière lui, de mobiliser, de convaincre et de rassembler. Parce que si l'ex-Front National est en tête, la suite, c'est la promesse d'un gros remaniement. Les moins investis pourraient en payer le prix.
Alors si le duo de tête ne fait guère de doute, Rosalie, derrière, c'est un petit peu plus incertain.
Oui, la droite de François-Xavier Bellamy est donnée troisième, mais avec un score bien inférieur à celui de 2014. Chez les Républicains, on va donc tenter cette semaine d'aller gratter du côté des électeurs de centre-droit pour réduire l'écart. À gauche, c'est plus que compliqué. 5 listes, un éparpillement des voix que vont tenter de limiter la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts, chacune autour de 10% d'intention de vote. Mais avant d'espérer gagner quelques électeurs, encore faut-il susciter de l'intérêt. Les élections européennes ne passionnent pas les foules et on annonce une participation encore plus faible qu'il y a 5 ans. L'abstention pourrait atteindre les 60%, gonflée par l'électorat dit « gilet jaune ». Les 2 listes qui se revendiquent du mouvement ne rencontrent pour l'instant pas vraiment le succès et les voix des gilets jaunes devraient, selon les experts, se répartir entre le Rassemblement National et l'abstention.
Merci beaucoup Rosalie Lafarge. Pour aller plus loin, je vous suggère d'écouter Frédéric Saïs après ce journal. Il se demandera dans son billet politique si les sondages sont fiables.
Mais en attendant, il est 8h10. sur France Culture et c'est la suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. La campagne européenne en Autriche est bousculée par une démission.
Oui, une démission du vice-chancelier autrichien, le chef de l'extrême droite, Heinz Christian Strache. Et voilà qui fait voler en éclats la coalition droite-extrême droite au pouvoir depuis un an et demi en Autriche. Une vidéo compromettante liant Strache à un homme d'affaires russe l'a en fait poussé à quitter son poste samedi. Dans la foulée, le chancelier conservateur Sébastien Kurz a annoncé des législatives, Isorias.
Les élections législatives anticipées pourraient se tenir dès début septembre. C'est en tout cas le souhait du président autrichien Alexander Van der Bellen qui s'est exprimé hier après un entretien avec le chancelier conservateur Sébastien Kurz. En revanche, on n'en sait pas plus pour le moment sur le gouvernement qui assurera la transition jusqu'à la tenue de ces élections. Pour tenter d'y voir plus clair, Sébastien Kurz devrait rencontrer dans les jours à venir les chefs des différents partis politiques. L'opposition a déjà fait savoir qu'elle ne souhaitait pas que les ministres actuel du FPE reste dans ce gouvernement de transition. Elle préfère qu'il soit remplacé par des experts. Ce qui est sûr, c'est que le FPE ressort affaibli de toute cette affaire à quelques jours des élections européennes. Le parti a perdu son chef, Heinz Christian Strache. Il dirigeait le FPE depuis 2005, mais a dû déléguer cette fonction à Norbert Hofer. Difficile de faire autrement après la diffusion de cette vidéo accablante pour lui, dans laquelle on le voit, entre autres, promettre à une prétendue nièce d'oligarque russe, l'attribution de marchés publics en échange d'un soutien financier au parti.
La cérémonie débutera dans une heure en Ukraine. Le comédien et humoriste Volodymyr Zelensky sera officiellement investi président d'Ukraine. Et ce, après sa large victoire aux élections le mois dernier. Novice en politique, il promet de mettre fin à la corruption et de casser le système de ce pays en guerre et en difficulté économique. Une délégation turque se rend en France aujourd'hui et demain pour visiter et pour observer les lycées internationaux. L'idée est ensuite d'installer sur le territoire français des lycées turcs qui seraient gérés par Ankara. Une annonce politique offensive de la part du président Recep Tayyip Erdogan en quête d'influence et de relais idéologiques à Nandlower.
Pendant ses 10 premières années au pouvoir, le Premier ministre puis président turc Recep Tayyip Erdogan a très largement délégué un pan entier de l'influence de son pays à l'étranger, l'éducation. La plupart des écoles turques à travers le monde étaient liées de façon officieuse au prédicateur Fethullah Gulen installé aux États-Unis. Mais depuis que le chef de l'État a fait de ce prédicateur son principal ennemi en 2013, depuis surtout qu'il l'accuse d'être à l'origine du putsch manqué de 2016, Recep Tayyip Erdogan s'efforce de démanteler son vaste réseau éducatif qui comptait à son apogée plus de 2000 établissements. Sa méthode ? Faire pression sur les gouvernements pour qu'ils ferment ces écoles ou les placent sous la tutelle de la fondation Maarif, créée pour l'occasion, financée par des fonds publics, et ouvrir dans ces pays de nouvelles écoles sous la coupe d'Ankara. Selon les relations de la Turquie avec les pays concernés et les moyens dont elle dispose, l'entreprise est plus ou moins efficace. Dès le lendemain du coup d'État avorté, le gouvernement somalien a par exemple remis les clés des écoles Gulen aux ambassades turques, puis à la fondation Maarif. Ailleurs, en Allemagne ou en France par exemple, Recep Tayyip Erdogan a beaucoup plus de mal à parvenir à ses fins. Il ne l'abandonnera pas pour autant, lui qui considère l'éducation comme un relais idéologique majeur à destination notamment de la diaspora turque.
À Nandlower, à Istanbul pour France Culture. Malgré 7 nominations, il n'avait jamais été récompensé à Cannes. C'est désormais chose faite. Alain Delon, en larmes hier soir, a reçu une palme d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Des larmes également dans les salles de projection puisque la compétition, elle continue lors de ce 72e festival. Bonjour Antoine Guillot.
Bonjour Clara.
En direct de Cannes, vous nous parlez ce matin de passion.
De passion, oui, et dans tous les sens du terme. Pour sa dimension christique, c'est Terrence Malick qui a ouvert le bal avec Une vie cachée. Ça commence comme une pastorale, ah, qu'elle est belle et joyeuse, cette vie rurale dans une vallée montagnarde autrichienne est reculée. Malheureusement, au bout d'une heure de film, la guerre arrive, et pour notre héros, brave paysan, c'est l'heure du choix moral. Va-t-il, comme le doit tout soldat, jurer allégeance à Hitler, qu'il considère comme l'antéchrist, ou résister au risque de mettre en péril sa vie et le bonheur familial? Ceux qui se voudraient un éloge des héros méconnus qui ont refusé de céder au nazisme tournent vite au chemin de croix pour ce véritable Christ moderne d'abord, dont le très long martyr rachètera la faute et même l'âme de toute l'Autriche. Calvaire pour le spectateur aussi, épuisé par les habituels procédés de mise en scène de l'américain, voix off sentencieuse, musique permanente et emphatique, coulée constante de mouvements de caméra au grand angle qui rendent le monde tellement caoutchouteux qu'il en donne la nausée, sans compter le choix des plus contestables. capable de faire parler les héros en anglais et les autres en allemand non traduit, la langue des saints d'un côté, des nazis de l'autre. De passion, mais au sens amoureux, cette fois, il était encore question dans le nouveau film de Céline Sciamma, pour la première fois en compétition à Cannes, avec Portrait de la jeune fille en feu, premier film en costume aussi pour la réalisatrice de Bande de filles. Ce film magnifique, histoire d'amour entre deux jeunes femmes, dont l'une doit peindre le portrait de l'autre en vue d'un mariage arrangé, réflexion sans discours et très incarnée sur le regard, l'art de la représentation, le désir et le mythe d'Orphée, a provoqué des torrents de larmes hier dans le Grand Théâtre Lumière et définitivement imposé Céline Sciamma comme une des très très grandes cinéastes d'aujourd'hui.
Un portrait de la jeune fille en feu, premier coup de cœur d'Antoine Guillot. Merci Antoine et à demain dans ce journal. Et puisqu'on parle cinéma, Guillaume, quelques mots des prix France Culture.
Mais oui, avec le prix Consécration à la productrice Margaret Ménégoz, une grande femme du cinéma, notamment la productrice de Romère, de Vajda. Et puis le prix étudiant aussi, un grand cinéaste, Laszlo Németh, pour son film Sunset, Clara.
Deux prix qui ont été remis ce week-end. Quelques mots de la météo pour le temps de ce lundi. Instable globalement sur l'Hexagone en traverse et éclaircie. De l'orage même cet après-midi de l'Île-de-France jusqu'au centre-Val de Loire et sur l'Occitanie. Comptez 13 degrés ce matin à Clermont-Ferrand et Lille, 15 à Paris, Rennes, Lyon, 16 degrés à Strasbourg et Bordeaux et 18 à Perpignan.
Eh bien, merci beaucoup, Clara Lecoq-Réal. Dans 30 minutes environ, Aurélien Bélanger vous livrera sa conclusion sur la décroissance, les assises du roman seront au cœur du billet culturel de Mathilde Sérel. Et puis c'est une matinale politique. Nous allons recevoir deux candidats. Lydia Guirous pour Les Républicains, les porte-parole des Républicains. Puis ensuite Manuel Bompard qui est second sur la liste de la France Insoumise et ancien directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Et puis un billet politique avec vous évidemment Frédéric Saïs. Frédéric Saïs, à une semaine des élections, que se passe-t-il?
Oui, on va se demander si à une semaine de ces élections européennes, les sondages sont fiables ou non? Réponse plutôt non.
8h17.